Ma vie n'est pas facile. J'ai beau être pasteur et porter ce titre, je galère. Je galère dans ma foi. Je galère dans mon intimité avec Dieu. Pendant des mois, je n'ai pas lu la Bible. Pendant des mois, je n'ai pas prié d'un cœur profond et sincère, avec un temps d'intimité avec Dieu. Pendant des mois. Je lisais ma Bible, je me suis fait violence, il y a un peu trop d'écho. Je me faisais violence, alors résultat, je me lisais un verset biblique de temps en temps, pour au moins garder quelque chose. Je ne doutais pas de Dieu et je priais et je partageais, et quand je donnais quelque chose ici le dimanche, j'en étais pleinement convaincu. Et souvent, grâce de Dieu, quand je m'arrêtais pour écouter, il parle. Et Dieu parle tout le temps. L'année passée, à peu près à la même période, j'ai donné un enseignement. Trop d'écho, c'est atroce. C'était sur Réveil ou prière était le titre. Et puis j'avais enseigné quelque chose qui brûlait mon cœur avec force, vous entendez toujours ? C'était clairement que ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Et depuis le jour où j'ai commencé, où j'ai enseigné ça, j'ai vécu la plus grosse crise et combat spirituel dans ma vie que je n'ai jamais vécu. Bon, une des, j'en ai vécu une autre. J'ai vécu des galères, j'ai vécu le burn-out que vous savez, je le dis aujourd'hui. J'ai vécu le découragement. Je voyais le mal partout et j'étais extrêmement démotivé. J'étais tellement démotivé que j'ai failli poser ma démission ici. Depuis le jour où j'ai parlé de l'intimité avec Dieu, j'ai vécu la guerre intérieure et le combat spirituel comme jamais. S'il y a une chose que l'ennemi de nos âmes déteste, c'est la relation d'intimité avec Dieu. Ça ne dérange pas qu'on lise un verset biblique ou qu'on prie notre petit quart d'heure quotidien si c'est pour faire la routine et la religion. Gardons-le, parce que la parole de Dieu est vivante. Ça ne dérange pas qu'on vienne au culte, l'ennemi de nos âmes. Ça ne le dérange pas. Peut-être même qu'il pourrait être assis ici. Ça choque, hein ? Où en est notre relation avec Dieu ? Je pouvais m'arrêter, prendre des temps de prière et d'intimité avec Dieu, et là, Dieu me faisait la grâce de parler. Et comme ce que tu viens de donner comme parole, peu importe l'état dans lequel il est, Dieu est fidèle. Peu importe que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, même si tu es le chrétien le plus engagé de cette planète et que tu as l'impression de passer un désert, que tu n'entends rien, que tu ne sens rien, Dieu est là. Tu peux t'éloigner de la foi, Dieu n'en reste pas moins présent. Alors je ne me suis pas éloigné de la foi pendant ce temps-là, au contraire. Je me suis vraiment accroché à ce Dieu fidèle. Mais qu'est-ce que c'était une guerre de prendre du temps dans sa présence. J'ai fui. J'ai fui des centaines de fois. J'avais pas envie. Puis à l'intérieur, j'en crevais d'envie. Et quand je venais prendre du temps, que je m'arrêtais, je me rebranchais sur mon ordinateur et je faisais du travail pastoral. Je faisais mon job. Le bon pasteur. Ma relation avec Dieu, elle en était où ? Je partais de la nature pour aller prier et je me laissais avoir par mon appareil photo. Par moments, d'autres moments, c'était des temps de louange et de joie, c'était magnifique. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, il y avait le dimanche. Oh non, je dois prêcher. Je vous le dis comme je le vivais. Ah non, je dois prêcher. J'ai pas envie. J'ai pas envie de parler à un mur. C'était comme ça que je le vivais personnellement, comment je vivais mon... J'ai pas envie de dire des paroles qui me viennent comme ça parce qu'il faut que je le fasse, ça m'intéresse pas. Il y a eu des fois, Dieu a eu compassion, parce qu'il y a eu des changements de programme. Et j'ai pas eu besoin de prêcher. Mais pendant toute cette année, j'ai réalisé en fait que j'ai vécu beaucoup de choses où Dieu m'a rapproché de lui. J'ai réalisé ça, une part de sa fidélité. Et je crois que la fidélité de Dieu, c'est une des choses les plus... Mais Seigneur, t'as vu comment je fonctionne ? Puis Dieu qui te dit, mais tu sais ce que je vois en toi ? Je me suis battu avec l'orgueil, j'ai le message, mais ils ne veulent pas écouter. Je me suis battu en me jetant des pierres, je me suis battu en généralisant. Dieu a changé ma conception de l'Église, Dieu a changé ma vision de ce que c'est que le service pastoral, complètement, complètement. Peut-être que pour vous ne le remarquez pas, et tant mieux. Mais moi, dans ma manière de fonctionner avec Dieu, c'est plus du tout la même chose. J'ai réalisé, dans cette église, il y a 80 églises différentes. Quand on est les 80 membres présents. Puis Dieu m'a dit, mais... C'est pas ça que je regarde. Alors c'est facile de voir que quand je me mets à l'écoute, Dieu parle. Quand je me mets pas à l'écoute, Dieu parle pas. Façon de parler, cliché Yann. Il parle, il parle, il parle. Je vous dis ça aujourd'hui parce que... Dieu est plein d'humour. Même quand on vit des crises. J'aimerais dans les prochains... Dans les prochaines fois que je partage un message, je veux parler de l'Épître aux Colossiens. Et on va parcourir ensemble l'Épître aux Colossiens. Et cette semaine, j'étais là et puis je disais, mais Seigneur, j'ai pas envie de parler de l'Épître aux Colossiens, regarde ce qu'elle dit. Ça me confronte exactement dans les mots que je viens de vous partager. Confrontation. Et l'Épître aux Colossiens est probablement une des lettres de la Bible que j'ai le plus lues, tellement elle est riche. Tellement elle accompagne dans la marche de foi. Tellement elle est riche dans qui est Jésus. L'Épître aux Colossiens, elle est petite, mais elle est puissante. Alors on va la parcourir. Je ne vais pas vous dire comment, je ne vais pas faire une doctrine, je ne suis pas un docteur en théologie. Mais j'étais là cette semaine, non, je ne veux pas parler de ça. Tellement une confrontation. Seigneur, regarde où j'en suis, j'ai encore... de pas faire, comment tu veux que j'enseigne ? Parce que je vais vous dire ce matin une chose forte, je n'ai jamais donné un message ici de choses que je ne vis pas. Je n'enseigne pas de la doctrine, je n'enseigne pas comment les choses doivent fonctionner, si pour moi ce n'est pas un acquis et du vécu dans ma vie. Jamais. Je ne le peux pas. Si on me dit, aujourd'hui tu vas prêcher sur ça, que je ne le vis pas, je ne le pourrai pas. Et résultat, à cause de cette confrontation et ce chemin dans lequel Dieu m'amène, je suis dans vraiment un cheminement qui est... Merci, grâce de Dieu. J'étais là, c'est pas encore ça, je peux pas, Seigneur, prêcher là-dessus. Tu veux vraiment que je prêche ça ? Puis, il m'amène sur autre chose, dans mon temps de prière. Puis j'ai dit, ok, je vais parler de ça, super. Et je me mets à travailler le message et je me retrouve où dans mon message ? Dans l'Épître aux Colossiens. Il est bon Dieu. Hein. Pour moi, c'est un clin d'œil de sa part. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne me prends pas la tête. Je suis désolé. J'ai peut-être des convictions. J'ai une marche claire. Dans la parole de Dieu, c'est écrit « Faute de connaissance, mon peuple meurt. » Et quand on lit la suite, c'est écrit « Parce que pasteur, vous n'avez pas enseigné selon mes voies. » Alors je vous promets que les dimanches que je viens, je tremble comme une feuille morte qui est en train de tomber, essoufflée par la bise. Quand je m'ouvre la bouche, même si je le crois et que j'en suis convaincu et que je le vis et que j'en ai vu le fruit, quand je vous partage la parole de Dieu, j'espère, sachez-le, c'est la vérité. J'espère tellement que je dis ce qui est juste. Et j'en tremble. Pourquoi je vous témoigne ça? Parce que je ne me sens pas au-dessus de qui que ce soit. Même si j'ai des convictions. Pourquoi je vous le dis ce matin? Parce que l'apôtre Paul lui-même osait le dire. Suis-je l'apôtre Paul? Loin de là. Mais dans ma vie, quelque chose qui m'a aidé, c'est quand j'ai découvert que certains que j'admirais personnellement, hein, certains de mes leaders avaient aussi des doutes et des problèmes. Qu'est-ce que ça m'a aidé dans ma foi? Et puis, j'avais l'impression qu'il était juste que je vous témoigne de ça ce matin. L'apôtre Paul n'est pas le fondateur de l'église aux Colossiens. C'est Epaphras qui est venu. Et c'est lui qui a travaillé le plus, qui a accompagné les Colossiens. Et puis, c'est une église qui a pris vie. Et c'est une église qui a extrêmement bien pris vie. Quand on lit Colossiens 1, parce qu'on va un peu s'arrêter dans Colossiens 1 aujourd'hui, Paul, il est en admiration devant cette église. Il réalise les lettres qui s'échangent, il réalise les questions qu'ont les Colossiens. Avec les échanges d'Epaphras et d'autres des serviteurs et des amis de Paul dans le ministère, waouh, cette église, elle aime Dieu. Dans ce premier chapitre, il y en a quatre dans l'Épître aux Colossiens. Il y a les salutations d'abord, et puis il y a des bénédictions. Et puis il rappelle ce que c'est que la foi en Jésus. Bref, il rappelle ce que l'on est censé croire. Et puis il appelle à ce que l'on s'engage à marcher avec Jésus. Et j'ai envie qu'on puisse recevoir en tant que l'Épître aux Versoisiens. Cette année, je crois, ce mois, la paroisse fête ses 25 ans d'existence. Une paroisse qui a traversé les années. Comme on a entendu ce matin, les anciens, ceux qui étaient avant, une nuée de témoins. Ceux qui ont prié, ceux qui ont traversé, ceux qui sont toujours là et ceux qui seront demain. Une paroisse qui a passé des épreuves, qui a passé des joies, qui a passé des découvertes, qui a eu des frissons, qui a vécu des organisations, etc. Une paroisse vivante. Et cette paroisse qui est toujours là, qui est toujours debout, bon anniversaire vers soi. Chapitre 1 de l'Épître aux Versoisiens, les versets 4 à 8. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, » je m'arrête. Avec ma femme, c'est quelque chose qu'on a vu et remarqué dans cette église depuis qu'on est là, c'est cette notion de charité. J'ai jamais vu ça. Vous êtes fous. Vous êtes des gens qui avaient un cœur et une générosité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Église qui a un grand cœur. Église qui vit la charité. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, Jésus-Christ est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues de ceux qui étaient là avant, là, il parle d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Avant que j'arrive, il y en a eu, et Maillère entre autres, pleinement présent. et tous ceux qui ont partagé la parole. C'est écrit quoi ? D'après les instructions que vous avez reçues, ces bien-aimés compagnons de service qui ont été pour vous fidèles ministres du Christ et qui nous ont appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et là, je vous lis ces mots en tant que témoignage de ce que nous avons vu de vous. Paul, il lance des fleurs et des roses et des bénédictions à cette église. Paul, il vous lance des roses et des bénédictions ce matin. Il voit que ce qui fonctionne. Il voit que c'est une église motivée, une église qui est active. Quand on parle des marchés de Noël, on est surpris de voir comment vous réagissez. Que les gens y viennent, la motivation qu'il y a. Et quand moi j'entends sur Internet ou d'autres des gens qui disent « Mais il y a de la joie quand on vient à votre stand, vous êtes plein de paix et de joie avec nous, les entourages, et que c'est le Libanais musulman qui me dit ça. » Une église qui vit cet amour, une église qui fait que la foi en Jésus veuille grandir. Une église, je vais le dire, dont rêvent tous les pasteurs. Une église qui va bien, et quand on lit l'Épître, on réalise que Paul, il la considère comme excellente. Mais Paul, malgré tout, il leur fait des remarques, des avertissements. C'est pas des critiques. Mais, en fait, elle va bien, mais peut aller encore mieux. Un encouragement, en fait. Un encouragement pour grandir encore plus. Un encouragement pour prendre plus de vie. Un encouragement pour aller plus loin et porter encore plus de fruits. Paul, il les encourage, il les pousse, il les motive, il répond à leurs questions basées sur la foi en Jésus. Et je ne sais pas où tu te sens ou comment tu te sens aujourd'hui dans ta foi. Mais moi, ce qui ressort, et puis ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, le titre c'est « Travailler à son salut ». Prends cette lettre pour toi ce matin. Et j'ai vraiment, mais très fortement envie de vous encourager jusqu'à Noël, lisez, relisez, relisez l'Épître entière aux Colossiens. Plongez-vous dans la lettre aux Colossiens. Mais vraiment. Parce qu'elle est extrêmement riche, et extrêmement motivante, et extrêmement défiante. Puis comme elle est courte, c'est pas long. Vous pouvez la lire, puis la relire, puis la relire. En fait, levons les yeux. Ne regardons pas juste ça marche, c'est cool, c'est bien. Ou on a notre routine et c'est bon. Ou il y a deux, trois choses qui bougent et c'est bien. Non, regardons plus loin encore. Levez les yeux. Et si cette église reçoit des bénédictions, par exemple, aux Colossiens de la part de Paul, elle reçoit autant d'encouragements, alors c'est motivant que nous puissions voir les encouragements de Paul comme étant motivants. Qui nous pousse plus loin, plus proche de Dieu, plus proche de son cœur, et qui nous montre que on peut grandir et grandir et grandir encore. Mon fils Loïc, des fois, il me pose des questions, puis il dit « Papa, un jour, je serai plus grand que toi !» Alors il frustre parce qu'il est petit, bien que cet été, il nous a fait une belle poussée. Il est là « T'as vu ? Je vais te dépasser !» Mais si on pouvait avoir ce cœur-là, on ne pourra pas dépasser Dieu. Mais dire « Je vais grandir encore !» Je vais grandir encore. Les versets 9 à 14 nous disent « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc c'est Paul qui parle, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Église qui va super bien. Et depuis qu'on a entendu que vous allez super bien, alors on ne s'arrête plus de prier pour vous. Vous allez bien, mais on prie pour vous. Au lieu de dire « Yes, c'est bon, je passe à une autre. » Et nous ne cessons pas de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous allez super bien, mais je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et pas seulement de ça, mais que vous grandissiez en toute sagesse. Pas juste d'être un peu sage. et en toute intelligence spirituelle. Cela pour que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Et cela aussi pour lui être entièrement agréable. Pour que vous portiez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ça continue avec un joli petit « et » pour que vous grandissiez, croissiez par la connaissance de Dieu. Deux fois, il revient sur la connaissance. Le verset 11, « pour que vous soyez fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et dans la joie, persévérant et patient. » Je continue. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Les versets 9 à 14, c'est ce qu'on a chanté ce matin et vécu dans la Sainte Cène. Pouh, quel programme ! C'est pas juste vous allez super bien, vous êtes une super église. C'est... Il y a du taf. Il y a du boulot. Parce qu'il y a tellement mieux. On a vu, hein, Paul, il les bénit. Et parce que tout va bien, alors il va encore plus loin. Le verset 9, on a vu. Être rempli de la connaissance de sa volonté. Connaître pleinement la volonté de Dieu. Connaître, comprendre, être imbibé de la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste savoir des choses sur Dieu. C'est connaître comment il fonctionne et comment il pense et comment il vit. C'est que tout d'un coup la parole de Dieu devienne vivante. C'est que notre relation avec lui, tout d'un coup, il y a autre chose qui se passe. En toute sagesse et intelligence spirituelle, je reviens sur ces passages, c'est quelque chose d'entier, il n'y a pas du partiel avec Dieu. Ce n'est pas une petite partie, ce n'est pas du « l'étalage, vas-y, serre-toi » et prends juste une part. C'est « non, j'ai envie que tu profites du tout ». Une intelligence spirituelle, c'est que c'est au-delà de notre propre connaissance. Psaume 111, verset 10, Proverbe 1, 7 nous disent « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, le commencement de l'intelligence. » C'est donc pas l'intelligence intellectuelle. On le voit, Salomon, il a eu la sagesse la plus extraordinaire de cette planète. Ça l'a même éloigné de Dieu. Et quand il s'est éloigné de Dieu, il a bien réalisé que l'intelligence terrestre, elle était vanité des vanités et poursuite du vent. C'est une intelligence qui nous fait comprendre des choses autrement. Le verset 10, « Marchez d'une manière digne du Seigneur. » Marche d'une manière qui soit digne de Dieu. Je prends un exemple simple, mais si vous allez à un mariage, je ne pense pas que vous irez habillé en training. On va habiller d'une manière digne des mariés, on veut leur faire honneur. Si on invite ou si on va à une conférence, tout dépend qui c'est, on s'habillera dans une marque de respect. Enfin, vous comprenez la notion. Et là, Paul nous encourage à marcher d'une manière digne, mais de qui ? Des mariés ? De notre patron ? Digne du Seigneur. C'est donc pas du « comme j'aimerais que moi ça m'arrange ». Seigneur, je vais marcher comme toi, comment je peux t'honorer ? Lui être entièrement agréable. Entièrement agréable, Seigneur. Entièrement agréable. Dans mes pensées, dans mon vocabulaire, dans mon comportement, dans mon travail, dans la justice que j'ai avec les autres, dans mes relations, dans mon intimité avec toi. Entièrement agréable. Pouh ! c'est quelque chose d'absolu. Rappelez-vous ce passage qui me vient maintenant, « Soyez saints comme votre Père est saint ». Challenge. Si on lit les versets 16 à 23, donc de l'Épître de Colossiens chapitre 1, vous verrez un puissant récapitulatif de l'œuvre entière et puissante de Jésus. Je ne vais pas en parler ce matin, peut-être je vais revenir là-dessus dans les prochains messages. Mais non seulement lisez l'Épître aux Colossiens, mais lisez ces 16 à 23. Et puis regardez ce qu'a fait Jésus. Regardons ce qu'a fait Jésus. Regardons qui est Jésus, tellement ces versets-là nous en parlent avec une force. Notre Seigneur et notre Dieu, lui, il a marché d'une manière plus qu'entièrement agréable et d'une manière plus que digne. Pour qui ? Pour nous. Grains de poussière qui retournons à la poussière, et comme le disait l'humoriste, et je passe l'aspirateur. Dieu a tout donné pour nous. Question simple, il a tellement fait pour moi et moi, lui ai-je dit merci ? Est-ce que je marche d'une manière qui soit digne de lui ? Est-ce que je lui suis totalement agréable ? Quand je lis ces passages, j'ai envie de dire oui ! Mais en gros, des fois, ça nous suffit. C'est comme je vous témoignais avant, je crois pleinement en Dieu pendant tous ces temps. Mais je ne lisais plus, je ne priais plus. J'avais ma routine. Je profitais, quelle grâce, des temps de louange du dimanche matin pour revivre des temps avec mon Seigneur. Où je me suis remis à lire la Bible, à me forcer à lire certains versets, même si je ne méditais pas, ne serait-ce que pour garder quelque chose. Et il y a eu des temps où j'étais vraiment dans la présence de Dieu, mais c'était magnifique, malgré tout. Mais quand Dieu il vient et que tu dis, « Tu sais, Yann, tu m'as brisé le cœur. Est-ce que j'ai perdu mon salut ?» C'est pas la question, là. C'est, « T'es où, Yann ?» J'ai tellement envie de continuer de parler avec toi. De t'apprendre des choses, de te faire découvrir des choses. Ça, c'est le cœur du Père. Coucou. Hier, je lisais, cette nuit, je lisais un passage, et puis ça parlait de la repentance. Puis j'étais là, oui, Seigneur, ce matin, pendant le temps de Sainte-Seine, je me suis écroulé. Et c'est là que Dieu m'a dit, Seigneur, Yann, tu as brisé mon cœur. Même que je suis dans cette marche. Ce matin, par contre, j'ai pu l'accepter. Paul pousse l'Église à s'engager plus. Parce que quand on réalise ça, on en réalise la grâce parfaite de Dieu. On dit oui, mais ça suffit. Seulement Dieu, il nous dit, j'ai tout donné et j'ai envie de te donner encore plus. Donc je t'appelle à revenir. Afin que nous soyons fortifiés par sa puissance. Dieu nous appelle à nous rapprocher toujours plus de lui pour que lui nous fortifie. Je veux être fortifié. Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu lui dit ça. Je fais comment pour me fortifier ? Ça, c'était ma question pendant toute mon adolescence. Viens vers moi. Josué, quand Moïse, il était dans la présence de Dieu, Josué, il était à l'entrée du tabernacle. Moïse partait, Josué restait à l'entrée du tabernacle. Faut pas s'étonner que lui, il était choisi pour continuer. Fortifie-toi. Et là, le Colossien nous dit au verset 11 que c'est pour nous fortifier. Autrement dit, c'est encore lui qui fait le boulot. Une grâce incroyable. Plus on est proche de Dieu, plus sa puissance nous touche, nous fortifie. Oui, mais on ne va pas y arriver, ce monde est trop difficile. Et de toute façon, si on ne le marche pas, on s'écroule. Mais tu n'as pas compris que c'est dans la présence de Dieu que tu trouveras la force. Oui, mais je vais retomber, j'y arrive pas. Viens dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu recevras la force. Plus tu es dans sa présence, plus tu vois les choses autrement, plus tes choses changent dans ta vie. Et ça, j'en suis un témoin. Le verset 12 souligne en nous demandant de remercier notre Père, car c'est lui qui nous rend capables de ces choses, afin de profiter de l'héritage des saints. profitons de ce qu'il a mis de côté pour nous. Paul nous rappelle au verset 13 et 14 l'œuvre complète de Jésus qui nous a délivrés, transportés, pardonnés. La grâce dans sa totalité. Si je réalise ça, quand on réalise ça, est-ce qu'on n'aurait pas envie de dire « Seigneur, t'as plus pour moi ?» J'ai envie de le découvrir. Nous, on croit qu'on va tomber, qu'on ne va pas y arriver, donc quelque part, on fait du surplace. En fait, on se base sur nos sécurités, notre avis, et non pas comme Dieu voit. Et vous, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire quand on réagit comme ça ? On joue à Adam. Non, non, ça ne va pas marcher. Non, je ne vais pas y arriver. Non, mais de toute façon, autant pas le savoir, comme ça, je ne pêche pas. Oui, mais de toute façon, moi, je sais ce qui est bien puis ce qui n'est pas bien. On fait comme Adam. On croque le fruit défendu. Autrement dit, on crucifie Jésus. Parce qu'on ne se base pas sur sa direction, sur sa manière de voir, sur les forces qu'il nous donne, sur le renouvellement de notre intelligence, sur l'héritage qu'il nous a offert. Il faut qu'on apprenne à sortir de là pour entrer dans cette nouvelle dimension que nous avons reçue en cadeau en tant que chrétiens. Jésus l'a fait pour nous pour qu'on puisse changer. Et souvent, moi, j'ai entendu « Yann, travaille à ton salut ». J'étais là, ça veut dire quoi ? Travailler à mon salut. Je fais une parenthèse très courte, le temps avance, je sais, mais aujourd'hui, il y en a trop qui prêchent qu'on ne peut plus perdre son salut, qu'on ne peut pas perdre son salut. C'est un mensonge. J'ai hésité à le dire. Si tu marches avec Dieu, tu es sauvé. C'est clair et net, la parole de Dieu est nette, il n'y a pas photo. Mais si tu ne veux plus marcher avec Dieu, si tu veux te stagner dans du surplace, en fait, ça s'appelle marcher en arrière. Et si on marche en arrière, on met nous-mêmes une séparation entre Dieu et nous. Plus je ne m'intéresse pas à Dieu, plus je fonctionne comme le monde, plus dans le monde je mets les choses qui ne sont pas justes. Par exemple, je me remets à pécher et je mets les briques, la séparation entre Dieu et moi. Et si je ne reviens pas à lui, je suis éloigné de Dieu. Je rappelle aussi un verset comme quoi il dit « Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait ces choses en ton nom ? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a donc un travail à notre salut. Tant que tu crois que tu aimes le Seigneur, tu es sur la bonne voie. Sois réconforté. Si aujourd'hui tu te poses la question, c'est que tu es sur la bonne voie, c'est que tu n'as pas perdu ton salut. Mais c'est pour ça qu'il nous est tellement demandé de travailler à notre salut. Pour grandir, pour découvrir encore mieux, pour être les héritiers du roi des rois. La croix. Les versets 16 à 23 que je vous ai dit de relire sur Jésus sont tellement puissants, osons s'y arrêter. La croix, c'est la base, et je trouve extraordinaire que ce matin, il ait fait la Sainte Cène avant le message. C'est la base absolue. Et tout vient de là. T'as plus la force, reviens à la croix. Tu doutes, reviens à la croix. Tu t'es éloigné de Dieu, reviens à la croix. Reviens. Souviens-toi du père du fils prodigue qui l'attend avec impatience. Je reviens sur le verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. J'y arrive pas, je marche pas selon ta volonté, Seigneur. Viens à moi, je t'ai délivré. Je vais te redonner cette dynamique et cette vie. Tu n'y arrives pas, reviens à moi. Lève les mains. Seigneur, mes mains sont dans ta direction. Je me joue. J'y arrive pas, Seigneur. Là, je suis en train de tomber. Ok, au lieu de rester sur ma chute ou mes difficultés, je me rends, Seigneur, j'y arrive pas. Tes bras sont levés, il peut te serrer dans ses mains. Tes bras sont levés, il peut prendre tes mains. Ne t'éteins pas. Je vais faire un petit tour par Philippiens, la lettre aux Philippiens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, on revient un peu aussi à ce qu'il dit aux Colossiens, vous avez toujours obéi, vous avez donc voulu marcher d'une manière digne de Dieu, virgule, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, disait Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ça, ce verset, il a été une excuse dans ma vie, j'y arrive pas, Seigneur, c'est que tu m'as pas donné le vouloir et le faire. Et puis Dieu, il te dit, Yann, est-ce qu'on sait que tu reviendras dans ma présence? Là, je vais te le donner, le vouloir et le faire. Parce que quand tu te rapproches de lui, les choses coulent. C'est pas le paradis sur terre, hein? Ça n'empêche pas les larmes, les doutes et les questions. Mais quand on est dans l'intimité de Dieu, la vie n'est plus la même. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation de choses qui viennent de Dieu. Hein, comme nos enfants, va et range ta chambre. Trop souvent, avec ce que la parole de Dieu nous enseigne, on fait la même chose, en tout cas moi. Puis que je suis têtu, puis Dieu il reste à mes côtés jusqu'à ce que je lâche. Il y en a qui sont, quand Dieu leur dit ça suffit, ils disent d'accord. Moi je dis je sais. Je dis aide-moi à ce que j'arrive à lâcher. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles, pas moi qui dis, hein, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et là, je pourrais me glorifier, dit Paul, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Un appel de Paul très fort aux Philippiens, mais en fait, il est pour toute église, toute personne, tout croyant. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu, on se doit de travailler à notre salut. Dieu nous donne tout, mais on se doit de nous rapprocher de lui. Et plus on se rapproche de lui, plus c'est vivant. Paul, il est gonflé, comme vous avez toujours obéi. Wow. Parce qu'on obéit à notre Dieu. Et la question c'est, est-ce qu'on se soumet à Dieu? Comme nous l'avons déclaré personnellement lors de notre baptême. Seigneur, je me soumets à toi, je te donne ma vie, je désire marcher dans tes voies. Je renonce à mon passé, je veux te suivre pleinement, c'est ma décision. Sur cette confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, non, pas ça, Seigneur. Non, je suis baptisé, je crois que toi maintenant, c'est top. Mais non, pas ça, Seigneur. Le verset 13 de cette... Paul dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Alors rapprochons-nous de lui. Imaginez la pub, spot télévision, un immense magasin qui contient tout ce qu'on veut. J'ai bien dit tout. Que ce soit ta maison de rêve, ta piscine, tes outils pour le travail, ton instrument de musique, tes cours pour apprendre tout ce que tu veux. Bref, il y a tout dans ce magasin, absolument tout. Et puis le magasin dans lequel tu sais que ce que tu veux, tu vas le trouver. Tu ne cherches pas si oui, oui, non, moi j'aimerais plutôt que ce soit comme ci ou comme ça, etc. Tu sais que là, tu vas trouver, d'accord? Exactement ton produit à toi. Aujourd'hui, 95% de réduction sur le produit de votre rêve. Qu'est-ce que vous feriez? Cherchez. Non, chacun trouve son produit. Même si on est 25 à avoir le même produit, on trouvera à l'eau 25 le même produit. On achète et on revend, ouais. Ben c'est vrai, la toute première chose, je vais déjà regarder si malgré le 95% mon rêve absolu, je peux. Donc je vais m'arrêter et je dis, ah oui, je peux. La deuxième chose, c'est que ben, il faut y aller, effectivement. Faites ce que vous voulez, mais tu restes à la maison. La troisième chose, c'est je vais direct au rayon spécifique. Je fonce. Et puis je vais le prendre le produit parce que j'ai pas envie d'arriver trop tard. Ils ont dit que c'était aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui le magasin est fermé à quelle heure? Attends, il faut que je me rappelle. Oh non, mais attends, il me faut tant. Je me prépare, j'y vais, je fonce, je le veux. Je le trouve, je rentre. La porte est fermée, c'est foutu. Avec Dieu, c'est un petit peu comme ça. Est-ce que j'imagine ce que je peux pouvoir vivre avec lui? Ce qu'il m'offre? Lui, il me dit pas 95%. Lui, il me dit 100% est gratuit pour toi. Est-ce que je vais vers Dieu? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je prends de lui ce dont j'ai besoin? Je ne parle pas de... Aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussettes. Qu'est-ce que j'ai besoin pour marcher selon toi, Seigneur? Avec toi? En toi? C'est tellement important de le connaître. Notre vie, notre foi dépendent de notre relation avec Dieu. On doit vouloir y veiller. On doit vouloir y veiller avec tremblement et crainte. Je loupe ce train, je ne peux pas aller dans ce magasin, je n'aurai pas mes 95%. Là, on y est avec crainte et tremblement. Hein. Est-ce que je travaille à mon salut comme ça? Seigneur, est-ce que ma vie t'honore? Pas, je n'honore pas Dieu, mais Seigneur, comment est-ce que je peux t'honorer? J'ai envie de t'honorer. Que notre vie, nos pensées, nos fonctionnements, j'ai envie de t'honorer, Seigneur. J'ai envie d'une manière de marcher d'une manière digne. On ne peut pas marcher comme Dieu. C'est pas ça la question, tu t'arrêtes là, tu es à côté de la plaque. J'ai envie de marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Alors viens, donne-moi la main et on y va ensemble. C'est tellement important, c'est tellement vivifiant. J'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est vrai, quand on n'avance plus, on revient en arrière. Non, avançons avec Dieu. Il y a l'arbre là-bas, quand tu es dans un champ, puis que tu crèves de faim, puis tu vois un arbre fruitier sauvage là, puis tu vois ce fruit. Ah, tu y vas et tu le prends et t'en profites. J'ai bien dit sauvage, hein, parce qu'on ne va pas prendre dans le champ du voisin. Avec Dieu, c'est ça, je veux plus de toi, Seigneur. J'y vais. Notre vie, notre foi, et les résultats, le fruit de l'esprit et les manifestations du royaume de Dieu dépendent uniquement et que de notre relation avec Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, on peut se dire « Chouette, demain, il y a tout qui va bien marcher. » Non, on est en chemin. D'accord? Mon fils, il veut déjà conduire. Il n'a pas encore 18 ans pour commencer son permis. Quelque part, avec Dieu, c'est plus ou moins un peu comme ça. Dans le sens, ben, tu veux, viens, on y va ensemble et on grandit. Les versets 14 à 16 de Philippiens nous montrent que nous devons être différents dans ce monde. Les actes des apôtres, on le voit, les gens ont vu comment ils fonctionnaient, ces gars-là, ils les ont appelés chrétiens. Ils les ont appelés, vous êtes des petits comme votre Messie, là. C'est ça que ça veut dire, chrétien. Vous marchez comme le Christ, comme le Messie que vous suivez, que vous proclamez. Ça se voyait. Ils étaient différents. Dieu donne les capacités. Travailler à son salut, c'est vouloir toujours plus de Dieu. Ce n'est pas la routine. Moi, je nous encourage à une routine. Parce que cette routine, elle nous nourrit et nous fait du bien. Mais si j'utilise la routine juste pour la routine, c'est dommage. C'est religieux. Heureusement que Dieu n'est pas limité par notre religiosité. Mais nous encourager à vivre cette routine, c'est parce qu'au bout d'un moment, ça devient notre cœur. Je veux t'honorer, alors je vais lire ma Bible. Je veux t'honorer, je vais prendre du temps dans la louange, dans la prière, dans l'écoute. Je veux t'honorer, je veux donc marcher bien. Je veux t'honorer, Seigneur, enseigne-moi. Je veux t'honorer, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole aujourd'hui? Viens même me remettre en question. Lire la Bible, prier, jeûner, mettre du temps à part pour Dieu. Quand on le fait, même quand on n'en a pas envie, c'est un parfum agréable devant Dieu. Offrir nos corps comme un sacrifice agréable, parce que lui, il est bon. Et quand on le fait, il est là. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un groupe de jeunes à Bienne, ça s'appelait les J'y crois. Et puis, c'était un groupe de jeunes qui n'arrêtait pas de grandir. Ils étaient probablement 120 ou je ne sais pas combien, voire même plus. Et il y avait régulièrement des gens, et tous les jeunes de Bienne, en tout cas francophones, connaissaient le groupe J'y crois. Et tout le monde savait, c'est ces illuminés de chrétiens. Mais tout le monde y allait quand même. Il y en a plein aujourd'hui qui sont pasteurs. Pasteurs dans des églises réformées, pasteurs dans des églises évangéliques. Il y en a plein qui sont dans des services et dans des ministères aujourd'hui. Il y en a plein qui sont dans la louange ou dans d'autres choses. Il y en a plein qui sont ancrés dans leur foi. Ah, il y en a aussi qui, ma foi, ont lâché prise, je veux dire. Mais il y avait une dynamique. Nous, on ne connaissait rien de ces choses. Mais j'avais 13 ans, c'était donc il y a 40 ans, je crevais d'envie d'aller. C'était il y a 30 ans. J'ai pris un coup de vieux, ça doit être le poil blanc, là. Et on en crevait d'envie. Et il y en a un, là, au milieu, je l'appelais monsieur. Et ce gars, c'était une bombe de vie. Il dansait, il courait, il criait, il avait la joie, mais ça débordait. Ce gars, il était fou. Et tout le monde l'admirait, tout le monde l'admirait. Un jour, ce gars, il a dit, « Seigneur, c'est quoi de vivre sans toi ? J'aimerais comprendre. » Pendant 3 jours, Dieu s'est retiré de lui. Il a passé 3 jours de pleurs, de larmes et de cris au secours. « Seigneur !» Et puis après, quand Dieu est revenu, puis il lui a montré, il a dit, « Oh non, ils sont fous dans ce monde !» Cet homme, il avait une telle envie de Dieu, de marcher avec Dieu, qu'il s'était engagé. Il était universitaire, il était en fréquentation, il était responsable du groupe de jeunes et actif dans son église. Tous les soirs, même s'il rentrait à minuit ou à 1h du matin, il ouvrait la fenêtre, il se mettait torse nu à la fenêtre, même en hiver, et il prenait 1 heure de prière devant l'Éternel. Il s'est dit comme ça, je reste réveillé. Il a fait ça. Il ne faut pas s'étonner que le groupe de jeunes grandissait et explosait, et sa vie de foi était un témoignage, mais hallucinant. Cet homme, il voulait tellement honorer Dieu. Là, vous allez rire. Il fréquentait, personne ne le savait. Un jour, tout d'un coup, ils se sont fiancés. Ceux qui ne les connaissaient pas ne le savaient pas. Parce que pour eux, c'est « je ne la touche pas avant le mariage ». Les pasteurs lui disaient « vous savez, maintenant que vous êtes fiancés, vous pouvez vous faire au moins des bisous. » Peut-être marcher main dans la main. Mais leur but à eux était « je veux tout mettre de côté pour honorer mon Dieu ». Je veux dans mes pensées, je veux dans ma marche, je veux dans mon fonctionnement, je veux dans mes paroles, je veux honorer Dieu. Je vais vous dire un truc violent. Cette équipe a quitté les responsables, le groupe de jeunes a diminué. Je l'appelais monsieur. Extraordinaire personne. Et une vie. Une bombe de vie. C'était pas la foi ennuyante avec lui, je vous le garantis. Mais il était, il marchait très droit, et c'était un exemple. Ouais, il prenait 1 heure, moi j'y arrive pas à 1 heure. En fait, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu veux avec Dieu ? Et plus tu vis les choses avec Dieu dans tes temps d'intimité, tu verras pas le temps passer. Il y en a qui rigolent dans la salle, ils savent. Hein. Mais la guerre, c'est de s'y mettre et de savoir. Tu veux marcher avec Dieu ? Est-ce que tu veux être disciple du Christ ? Est-ce que nous réalisons que nous sommes fiancés à Jésus ? L'Église est la fiancée du Christ ? Ou bien est-ce qu'on est des gens qui restent au restaurant ? Je veux ça ! Je veux ça ! Je veux ça ! Ok. Je m'arrête là. J'ai juste envie de vous encourager, de nous encourager, à nous redécider, à commencer. Vous voulez qu'il y ait quoi que ce soit qui change dans la vie, quoi que ce soit qui change dans l'Église, quoi que ce soit qui change envers soi ? Ça commence par l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, c'est la prière, la lecture de la Bible, avec un cœur qui s'offre à lui même quand c'est difficile. Et vous verrez que même sans vous en rendre compte, il y a des choses qui changent toutes seules. D'autres, c'est plus compliqué, c'est une autre question. Mais dans la marche avec Dieu, ça devient vivant et tout devient possible.